Devenir lanceur d'alerte. Une production de la revue Les Périphériques vous parlent avec le philosophe et journaliste d'investigation Roger Langlais. Neuvième partie.
Prise 1, question 9. Comment s'adresser au public et éviter les écueils d'une simplification outrancière ?
C'est toute la question de la vulgarisation, en fait. C'est très important, parce que là, on est dans l'espace de la communication. Il faut se faire bien comprendre. Il faut mettre l'information à la portée du grand public. Donc là, il y a tout un savoir-faire même qu'il faut cultiver. Ça ne s'improvise pas, vraiment, la vulgarisation. À la fois, il faut le dire avec ses convictions, mais c'est quand même une opération de traduction, puisque les éléments qu'on a réunis proviennent, pour l'essentiel, d'études scientifiques, de témoignages d'experts, etc. C'est souvent complexe, il y a beaucoup d'informations. Donc il faut hiérarchiser cette information, il faut la traduire. Et ça, c'est un vrai travail de journalisme ou de vulgarisation. En plus, c'est vrai qu'il y a toute une rhétorique, il ne faut pas se le cacher, qui permet de concentrer l'attention sur les points les plus importants du dossier. Et là, il y a un vrai travail en termes d'écriture ou de préparation des entretiens. Et il faut savoir résister en particulier aux caricatures. Entre simplifier et caricaturer, il y a vite, en fait, une dérive. Et en particulier, ce qui guette toujours le lancement d'une alerte en termes de dérive, c'est le catastrophisme. Et on entend dire très souvent, quand des personnes sont focalisées sur un dossier depuis longtemps, que c'est, par exemple, le dossier sanitaire le plus important du siècle. Ça peut s'entendre une fois, deux fois. Au bout d'un moment, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne sert à rien, en fait. Dire que c'est un sujet majeur de santé publique, même les journalistes le font, mais il y a beaucoup de sujets majeurs de santé publique, et c'est jamais très intéressant. Il faut être le plus possible dans le fait et dans les données essentielles du sujet, dans le concret, et finalement, le public comprend.
Question 9, deuxième prise.
Selon les supports médiatiques, évidemment, on n'a pas le même temps de parole ou autant de signes pour s'exprimer. Donc, s'adresser à la revue Santé et Travail, c'est pas comme parler sur un plateau TF1. Dans le premier cas, on a beaucoup d'espace pour rentrer dans les détails, et dans l'autre, il faut vraiment aller à l'essentiel. Alors ça, on l'apprend vite en faisant des erreurs. Mais par exemple, il faut savoir que si un journaliste vous interviewe, pour la presse écrite, vous avez tout intérêt, maîtrisant bien le dossier, à relire avant publication l'article. Sinon, très souvent, les journalistes qui travaillent un peu vite vont vous faire dire des bêtises, et le problème, c'est qu'ensuite, elles vous seront imputées. Donc, si vous voulez garder plus votre sens des nuances, éviter même des malentendus, parfois les mots sont graves sur ces affaires-là, puisque là, on est sur des affaires souvent de crise sanitaire, il y a mort d'homme, et donc il est important, même dans les accusations qu'on porte contre certains acteurs économiques, etc., qu'on ne vous fasse pas dire n'importe quoi. Relire les articles avant publication, ça permet de corriger souvent de très nombreuses erreurs, et on ne regrette pas de l'avoir fait.
Neuvième question, prise 3. Le complot.
Il faut prendre garde aussi à ne pas prêter le flanc à certaines critiques qui sont faciles et qui sont inévitables d'une certaine façon. C'est notamment l'accusation d'être dans la théorie du complot. Alors certes, il y a des gens qui sont payés pour comploter. Les lobbyistes, par définition, mettent en place des stratégies discrètes, d'autant plus efficaces qu'elles sont discrètes, etc. Bon, il y a des manipulateurs professionnels qui ne travaillent pas pour n'importe qui. En général, ils travaillent pour ceux qui peuvent les payer, donc c'est essentiellement les grandes entreprises. Être accusé d'être dans la théorie du complot, ça veut dire, en gros, on se trouve caricaturé en tant que lanceur d'alerte et accusé donc de voir le diable partout, des méchants empoisonneurs. Le lanceur d'alerte, en fait, n'a jamais besoin d'imaginer un vaste complot, des jeux de complaisance très organisés entre les gouvernants et les industriels, etc., même s'il y a des alliances objectives. Généralement, il faut bien essayer de faire la part des choses pour ne pas tomber sous cette accusation. Ou pouvoir en tout cas la réfuter facilement, c'est de regarder souvent ce qui est de l'ordre de l'aubaine économique. Très souvent, en fait, les choses s'organisent, le puzzle infernal se met en place pour paralyser la prévention autour d'un effet d'aubaine économique. Autrement dit, on a des industriels qui ont un marché qui rapporte. Donc ils y tiennent, ils n'ont pas envie qu'on critique leurs produits. De l'autre côté, on a des autorités politiques qui voit ce secteur florissant, apporter de l'emploi, etc., et pas avoir envie de le menacer. D'un autre côté, des professionnels de santé, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques, qui ont une aubaine économique par les traitements, les soins, etc., qui sont tout un marché autour, et en tout cas qui ne s'intéressent pas à la prévention, parce que ça ne rapporte pas. Un laboratoire pharmaceutique, on ne va pas mettre 1 euro dans la prévention, puisque 7 euros serait complètement perdu pour eux.
On a eu un bel exemple, notamment avec Alzheimer, je crois.
Voilà, alors autour de l'Alzheimer, effectivement, on a pu montrer avec Marie Grossman que les laboratoires pharmaceutiques étaient là pour vendre des médicaments anti-Alzheimer, les maisons de retraite médicalisées étaient là pour se faire de l'argent aussi avec les malades, on peut considérer que c'est pas malhonnête, mais le marché, il existe essentiellement autour des malades, et pas du tout autour de la prévention. Et l'État se désengageant de plus en plus pour confier au privé l'intervention sur ce type de maladie, eh bien on se retrouve avec 0 acteur pour mettre dans la prévention. On n'a plus de prévention du tout autour de ce sujet-là, plus personne ne s'intéresse aux causes d'Alzheimer. Je parle des causes premières, celles qui sont évitables, sur lesquelles on pourrait intervenir pour plus qu'il y ait de malades, personne ne s'y intéresse puisqu'il n'y a pas d'argent à faire sur des non-malades ou des gens qui ne sont pas encore malades. Bon. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine économique. Ça ressemble à un complot parce que tout le monde s'entend finalement pour ne pas faire de prévention, mais le résultat, c'est que ce n'est pas décidé qu'il y ait des malades, c'est simplement que tout le monde veut en profiter en quelque sorte. Bon. Et on a très souvent ce cas de figure en fait, de la mise en place d'un puzzle, j'appelle un puzzle infernal, qui ressemble à un complot et qui, en fait, mérite certes des procès, des accusations des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités et donc qui peuvent être coupables, mais en tout cas, très souvent, donc des choses qui ne rentrent pas du tout dans la théorie du complot. Donc il faut savoir, à ce moment-là, distinguer ce qui est vraiment de l'ordre d'une stratégie mise en place par des lobbyistes, par exemple, pour paralyser volontairement une prévention, qui existe, puisqu'on l'a vu pour l'amiante, par exemple, donc la distinguer avec l'attitude qui consiste simplement à ne pas avoir intérêt à s'intéresser à la chose.
Neuvième question, prise 4. Et que répondre à ceux qui disent, au regard d'un produit toxique, d'un scandale sanitaire, disent « oui, mais s'il fallait se plaindre de tout, ne plus rien consommer, sous prétexte que tout produit présente un risque, on est tétanisé, on est submergé, on est cerné de partout, donc à quoi bon, finalement, relever une affaire plutôt qu'une autre ?»
On peut répondre énormément de choses à ça. Déjà, la première, c'est que je cite toujours le cas de Pasteur, quand il avait fait connaître l'existence des bactéries et des virus, des microbes, beaucoup de gens se sont écriés, mais s'il y en a partout, comme vous le dites, et tout ça, il va falloir tout laver en permanence, se laver les mains entre deux patients, nettoyer les ustensiles, se laver les mains avant de manger. Bref, c'est complètement paranoïaque comme vision. La révolution pasteurienne, on l'a faite. Elle est à peu près inscrite aujourd'hui dans les habitudes des gens, même s'il y a encore des efforts à faire, y compris en milieu hospitalier, on le voit avec les infections nosocomiales, il faut encore continuer à faire attention donc aux bactéries et aux virus. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un environnement de plus en plus redéfini par les industriels, et les produits qu'on a autour de nous, de plus en plus, intègrent des molécules inédites, ou en tout cas par rapport auxquelles on n'a pas de recul en termes sanitaires, et donc on est de plus en plus exposé à notre insu à des toxiques. Malheureusement, il y en a énormément, dont il faut prendre conscience, dont il faut mesurer le danger et autour desquels il faut aussi régler les usages. C'est comme ça, on est en train d'entrer dans une autre révolution de santé publique qui est la révolution toxicologique. Donc il ne faut pas avoir peur de regarder, il ne faut pas avoir peur de tout s'y mettre parce que malheureusement, ce n'est pas les industriels en général qui le font. Ils n'ont pas intérêt, finalement, à court terme en tout cas, à regarder le danger de leurs produits. Et puis surtout, ils ont tendance à contourner même la législation, etc. Bref, à prendre des risques avec la population pour avoir du cash flow, pour vite avoir des bénéfices. Donc l'important là, c'est bien prendre conscience que les dangers se sont multipliés avec cette révolution industrielle. On continue aujourd'hui à mettre sur le marché tous les jours de nouvelles molécules, avec à travers de nouvelles applications, etc., sans bien les évaluer, sans bien évaluer leur toxicité, surtout pas à long terme. Donc on se retrouve de fait avec des dangers qui sont mis par l'homme, auxquels on est exposé quotidiennement. Et malheureusement, il y a du pain sur la planche. Si tous les citoyens ne s'y mettent pas, ce sont les industriels qui vont faire pression pour retarder le plus possible la prise de conscience des maladies liées à leurs produits. Il est important de prendre conscience, par exemple, qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus de filière de formation à la toxicologie. Si vous voulez devenir toxicologue aujourd'hui en France, c'est un parcours du combattant. Les citoyens, finalement, ne sont pas assez mobilisés autour de cette question, y compris les politiques. Et le résultat, c'est que les industriels ont réussi à faire en sorte que une à une, les filières de formation des toxicologues soient fermées. La dernière était au CNAM, elle a été fermée il y a quelques années. C'est-à-dire que les industriels ont réussi à se débarrasser des empêcheurs de faire de l'argent en rond. Évidemment, c'est embêtant un toxicologue, puisqu'un toxicologue, ça vient pointer les dangers éventuels d'un produit
qui est déjà sur le marché ou qu'ils veulent mettre sur le marché pour faire de l'argent.
Et lui, il vient vous dire ça va créer telle maladie, ou etc. Parfois, il dit c'est inoffensif, c'est bien, mais enfin, on prend toujours le risque. Et les industriels, donc, n'aiment pas qu'on pointe les dangers de leurs produits. Si ce n'est pas l'État ou les citoyens qui font pression pour redévelopper la toxicologie en France, eh bien, on n'en aura plus.